Mon prochain invité, vous le connaissez bien. De 84 à 87, il était directeur des communications avec les Nordiques de Québec, OK? De 92 à 2000, vice-président aux communications, services marketing du Canadien de Montréal. Deux rivalités, là, hein? Deux rivalités. Puis là, on a vu un match hier, Boston-Canadien, qui est la rivalité, plus encore que Canadien-Toronto, selon moi. Bernard Brisset, salut.
Hello, Ron.
As-tu déjà vu ça, toi? As-tu déjà vu ça? Moi, en tant qu'arbitre, en tant que journaliste, jamais. As-tu déjà vu ça, toi? J'ai vu une équipe plus forte que l'autre. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Ça, il y en avait toujours souvent une plus forte, un petit peu plus forte que l'autre. Mais une équipe qui se présente pas dans une situation de rivaux comme ça, où justement, au classement, il y a un point qui les sépare. As-tu déjà vu ça, une équipe qui, c'est zéro comme Ouellette, ont rien fait, pas tout hier?
C'est peut-être déjà arrivé, mais comme tu dis, hier, il y avait juste une équipe sur la glace, donc c'était pas compliqué pour les Bruins. À Lac, un blanchissage, je suis pas sûr qu'il y a eu trois bons lancers.
Ouais.
Ainsi de suite. Si c'est arrivé, c'est pas arrivé souvent, parce que, comme tu dis, la rivalité... Mais tu sais, la rivalité que nous autres, on vit comme amateurs,
ouais,
comme spectateurs, est-ce que c'est la même rivalité qu'on voit sur la glace aujourd'hui?
Quelle bonne question! Quelle excellente question!
Je suis pas sûr que c'est la rivalité des joueurs, moi, que les joueurs du Canadien haïssent les joueurs des Bruins, comme ceux du Canadien haïssaient ceux des Nordiques et vice-versa il y a 20 ans.
Ouais.
Ou ceux des Maple Leafs, tu sais.
Ouais.
Je sais pas. Je le sens pas, en tout cas. Et je le sens pas non plus chez les Bruins. Même si les Bruins, eux autres, ont beaucoup approuvé contre le Canadien, parce que c'est une équipe qui a tellement été maganée dans l'histoire, là, qui a perdu pendant 8 ans de suite, je pense qu'ils n'ont pas gagné un match. Alors, de leur côté, c'est des bonnes raisons pour les entraîneurs et les dirigeants de motiver les Bruins, mais en tout cas, si les dirigeants du Canadien ont motivé leurs joueurs hier, ça n'a pas marché.
Non, mais regarde, là, ça porte un excellent point, Bernard Brisset. Écoute bien, Ronald, là, du temps où Ty Domi jouait au hockey, là, il y a bien du monde qui haïssait lui, OK? Il haïssait l'entraîneur adverse, il haïssait les joueurs. De nos jours, là, ce serait normal que Gallagher puisse pas sentir Marchand, que Marchand haïsse Domi. Ça serait normal, ça. Ça serait rien que normal que ces gars-là, là, arrivent sur la glace, se regardent de travers, et puis veulent faire de quoi, tu sais, veulent impressionner, veulent intimider ou quoi que ce soit. Il n'y a plus rien de... Tu vas te dire, Bernard, à part d'un série, il n'y a plus rien de ça en saison régulière? Ça n'existe plus, ça?
Bien, ça existe encore, mais en tout cas, on ne l'a pas senti hier, puis je ne suis pas certain qu'on le sente autant entre le Canadien et les Bruins que les fans le sentent le veulent, tu sais. Tu parles de ça, c'est la glace de Gallagher, mais ce que j'ai vu Gallagher avec Brady Tkachuk d'Ottawa...
Ça, c'était correct!
Ben ça, c'est tu vois, c'est deux joueurs là, qui sont un peu pareils, qui s'en veulent, qui se donnent des petits coups, qui ça s'engueule tout le temps. C'est deux joueurs qui s'aiment pas.
Parce qu'il y en a un qui a frappé ton goaler. Quand ton goaler, on frappe ton goaler, c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va répliquer, j'ose espérer, tu comprends?
Oui, mais plus loin que ça, Ron, si quelqu'un frappe ton goaler, une fois, OK, tu vas te battre avec lui le match, tu vas lui donner quelques coups, mais le lendemain, c'est oublié. Mais des vraies rivalités, le Ty Domi, quand il haïssait quelqu'un, comme tu dis, il haïssait pour de bon.
À vie.
Mais ça, c'était une autre génération. De Domi, ça fait pas longtemps, mais c'est une autre génération quand même par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout des... En quelque part, c'est tout des chums. Ça s'entraîne l'été ensemble. Dans le même syndicat, mais ça, dans le même syndicat, ça fait des années que c'est comme ça.
Ouais.
T'as l'impression que c'est une fraternité, ça, les joueurs de la Ligue nationale aujourd'hui. Les grandes inimitiés d'antan, là, écoute, j'écoutais des histoires, moi, dans le temps de Maurice Richard, puis tout ça, les gars, traversaient la rue pour pas se retrouver face à face avec un rival. S'il y en a un qui allait à la messe à 10 heures, l'autre allait à la messe à 11 heures.
Ben non, faut que je te raconte une anecdote, parce que, évidemment, moi, j'aime ça, entendre des anecdotes, puis personne ne m'en raconte. Fait que moi, en raconter une, OK? Je suis à New York, Madison Square Garden, le soir d'un match, OK? Puis là, l'adversaire, je me souviens plus, Pittsburgh est là, oui, je m'en souviens, parce que je revois les joueurs encore, là. Puis ils sont dans le bar de New York, mais ça, c'est le bar où les joueurs des Rangers vont après la game.
Moi, je sais pas,
plus ou moins. Je prends une bière, j'étais avec Leon Stickle, on prend une bière. Là, je vois les gars des Rangers rentrer, parfait. Il y en a qui sont accompagnés de leur épouse, tout ça. À un moment donné, les Pingouins de Pittsburgh rentrent, tout ça. Mais là, je te parle des années début 80.
Ouais.
Ben, il y en a deux qui se sont regardés de travers. Il a fallu que presque Stickle les sépare. Début 80. Je pense que c'est les derniers temps, ça. Début 80, Léon a dit, les gars, c'est assez, là. Le call-in de gars, il a frappé mon gars, pis tout ça. Pis j'en venais pas, moi. J'ai dit, les gars, ça hisse. Aujourd'hui, du temps de Maurice, c'était vrai, mais là, encore, début 80. Aujourd'hui, c'est totalement pas vrai, ça. Il n'y a pas personne qui va parler à l'autre pour lui dire, hey, mon sang dessin, ou je vais te payer dans le prochain match.
Aujourd'hui, la situation se représenterait au bar à New York. Là.
Ouais, oh non.
Les joueurs des Rangers inviteraient leur chum de Pittsburgh à venir prendre une bière
exact.
Avec eux autres. C'est tout changé.
Exact.
Mais c'est comme le reste du monde. Les jeunes aujourd'hui, live and let live. C'est un autre contexte.
Mais le coach, Bernard Blissett, toi, écoute bien, là, de 84 à peu près, là, tu sais, à 2000, écoute, là, t'étais dans une organisation, là.
Je t'ai vu comme journaliste avant. Puis après,
avant ça, à part de ça, pendant 150 ans. Bon. Écoute, là, ça n'a pas d'allure. Tu dois avoir 84 ou 86 minimum, toi, là. Ça n'a pas d'allure. Toute la...
ben, okay. Écoute, Ron, on suit deux ans. Ça donne 82.
Non, ben, regarde, ben, alors, là. Raconte-moi donc, juste pour le fun, parce que c'est le temps des fêtes, OK? Raconte-moi donc, justement, encore une fois, pour le bénéfice des gens à l'écoute, comment c'était Nordique canadien? Pour ceux qui ne l'ont même pas vécu, qui sont à l'écoute, là. Donc, c'est-tu vrai que ça haïssait réellement tant que ça? Donne-moi un exemple. Parle-moi de. Vas-y, laisse-toi aller. Fais-nous plaisir.
Ben, des exemples, il y en a à tonnes. Mais c'était organisation contre organisation avant tout. Tu sais, c'était.
Oui. Les deux organisations ne s'aimaient pas?
À partir des deux présidents, puis à partir de plus haut que ça, à partir des propriétaires, je veux dire, c'était deux brassiers, souviens-toi, Molson,
moi, c'est ça.
Molson qui était propriétaire du O'Keefe, Canadien, O'Keefe qui était propriétaire des Nordiques, mais ça, avant que Molson achète O'Keefe en 89, si ma mémoire est bonne. Mais donc, pendant 10-15 ans, ça a été vraiment une guerre. Une guerre où c'était intenable et ça s'est répercuté à tous les niveaux. Tu sais.
Même les journalistes.
Même les journalistes, je veux dire que un journaliste de Montréal qui voulait avoir une Molson à Québec, il était mieux de se lever de bonheur, tu sais. Et vice-versa, la bière O'Keefe, t'en trouvais sûrement pas au forum, puis t'en trouvais pas tellement dans le coin du forum, parce que t'étais identifié. Mais ça, c'était au niveau des propriétaires. Au niveau des présidents, c'était pareil. Ronald Coré et Marcel Aubut, ça se tolérait à peine, tu sais. Les deux meilleurs, ceux qui cohabitaient le mieux, c'était Maurice Filion et Serge Chavard.
Ah ben oui.
Les deux DG.
Oui.
Mais les coachs, écoute, Bergeron puis Lemaire, il y a des histoires extraordinaires de ça. Ils servaient tous les deux des journalistes qui venaient dans leur bureau après les pratiques d'avant-match, puis ils lançaient deux, trois pointes. Les journalistes se retournaient dans le bureau de l'autre coach. Puis ça se lançait des pointes sans arrêt. Les joueurs à la glace, souviens-toi des Mario Tremblay avec Daniel Bouchard.
Ah oui.
Tu sais, Dale Hunter avec, les 20 joueurs du Canadien. C'était vraiment des gars qui ne s'aimaient pas, qui ne se toléraient pas. Les deux frères Hunter sont pratiquement battus lors du vendredi.
C'est vrai, les deux jouaient pour la même équipe.
L'un pour le Canadien, puis l'autre les Nordiques. Puis la bataille du vendredi saint, à un moment donné, ils ne sont pas battus à grand coup
non,
de poing.
Non, 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 mais...
Ça s'est coltaillé pas mal, tu sais. C'était ça. À cette époque-là, c'était pas juste Canadien-Nordique, c'était Canadien-Toronto, puis c'était Canadien-Boston.
C'était pas du lancer-compte,
Mais non, mais lancer-compte, c'est carrément inspiré de ce qui se passait. Je dirais, Jean Tremblay, ils ont couvert le hockey ensemble, ce qu'il y a vu, ce qu'il y a écrit dans lancer-compte. C'était à peine, la trame dramatique, c'était de la fiction. Mais les événements qu'il y avait là-dedans, c'était pas mal proche de la réalité, tu sais. Fait que c'était ça, c'était une autre vie. Faut pas être nostalgique tant que ça.
Non, mais c'est bon de se rappeler de cela quand même. On peut se rappeler de ça parce qu'il y avait des moments extraordinaires. Moi, j'ai toujours raconté que lorsque j'arrivais au Colisée de Québec, puis Maurice Filion me voyait, il me disait « Ah, pas toi.
»
Ben, je disais « Écoute, je m'en vais arbitrer un match de hockey nordique-canadien. Je m'en fous, là, je m'en vais arbitrer. » Il dit « Ron, tu peux pas arbitrer à Québec. Tu peux pas arbitrer à Québec, ils vont tuer, t'es de Montréal. OK? Tu peux pas arbitrer à Québec, tu peux pas. » Puis quand j'arrivais à Montréal pour un match nordique-canadien, c'est Serge Chavard qui m'attendait et disait « Ron, tu peux pas arbitrer à Montréal? » Ben, je dis, lâche-moi donc tranquille, pourquoi pas? Ben, c'est parce que tu vas tellement pas vouloir montrer que t'es Montréalais puis que tu prends pour nous autres que tu vas nous donner des punitions qu'on mérite pas. Je veux dire, lui, il pensait que je pouvais jamais gagner, fait que aucune situation gagnante avec les deux directeurs généraux, tu comprends?
Mais ça, Ron, on en a déjà parlé.
Oui.
Les Nordiques, là, les dirigeants des Nordiques étaient convaincus que toi, puis Denis Morel en particulier, vous étiez les deux arbitres québécois, qu'ils ne voulaient pas vous voir, vous alliez prendre contre. Vous preniez pour Canadien.
Oui.
Puis quand je touchais le Canadien, c'était la même maudite affaire. Je pense que tu n'étais plus arbitre, mais le Canadien était convaincu que Denis Morel, il prenait pas les Nordiques.
Ah, oui, dans le temps. Oui, oui.
Dans la télévision. C'était aussi fou que ça.
La fois que Marcel Aubu m'avait rencontré comme ça à Québec, puis m'avait dit Ron, Ron Wicks, il nous aime pas. C'est un arbitre, OK? Il nous aime pas. J'ai dit, je sais pas. Demande-y s'il t'aime pas. Ben, il dit, tu travailles avec, t'es un arbitre. Il nous aime pas, Ron Wicks. J'ai dit, demande-y! Il aime pas les Québécois. Ben, demande-y!
Il dit... Celui qui a le plus détesté les Nordiques, on le sait, c'est Carey Fraser, voyons donc.
Ah, c'est vrai?
Ben, voyons donc. Le but d'Alain Côté.
Arrête-toi. Arrête-toi, Bernard. Pas Maurice, en télé comique. Ça paraît que tu as besoin des vacances. Répondons à notre question. Toi qui suis à peu près tout, le golf avec Tiger, Michael Kingsbury avec ses succès, autant aux Olympiques, il continue encore d'être l'ultime, le meilleur, le plus grand de tous les temps. Quel a été ton moment marquant dans le monde du sport en 2018?
Je vais te surprendre. Le moment marquant pour moi, là, comme gars d'ici, avec, c'est sûr qu'on suit notre actualité locale plus que celle d'ailleurs.
Okay.
Pour moi, le moment marquant, ça a été la fameuse conférence de presse avec Jeff Molson et Marc Bergevin.
Wow!
La conférence de presse, là, comme j'en ai, je me souvenais pas d'en avoir vu, après la pire saison du Canadien, quant à moi, depuis toujours. La pire saison à tous les points de vue, il n'y a rien qui marchait, statistiquement, c'était pourri, tout était pourri. Là, on est sûr que Bergevin ne passe pas. Il faut que Molson fasse quelque chose. Ils sont arrivés, puis je pense qu'ils ont... changer complètement leur attitude à ce moment-là. Ils ont promis du changement. Ils ont promis une nouvelle attitude. C'était le mot à la mode.
Transparence.
Ils ont promis transparence. Jeff Molson, lui, c'était, je me souviens de ses mots, c'était évidemment une meilleure expérience client.
Oui, meilleure expérience
client. Tout le monde a pensé que ça voulait dire que les patates frites seraient meilleures.
C'est ça.
La bière moins chère. Mais je pense que lui, dans sa tête, c'était une meilleure expérience. Si tu t'en viens voir un match au Centre Bell, tu vas en avoir pour ton argent.
Exact.
Et dans ce sens-là, je pense qu'ils ont beaucoup livré. Ils ont répondu à ces promesses-là. Ouais. Puis Bergevin a fait quelques transactions qui ont été bonnes. C'est sûr que tu regardes le classement où ils sont maintenant. C'est pas bien mieux que c'était l'an dernier, mais au moins, c'est une équipe plus agréable à regarder. C'est une équipe qui donne de l'espoir. Et c'est pour ça que je dis, le moment charnière, là, quant à moi, dans la dernière année, comme amateur de hockey, puis gars qui se passe au Québec, tout ce qui se passe au Québec, c'est ça qui m'a le plus marqué, frappé, parce que ça a été déterminant pour l'avenir du Canadien cette année. Si je parle du reste du monde, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses.
Non, beaucoup de choses, mais non, mais je pense que ça nous touche, oui, ça nous touche énormément, ce que tu avances là, parce que oui, effectivement, c'est là que ça a parti. C'est de là. Ils ont dit, on est sérieux. Mais évidemment, ils ont ébranlé bien du monde lorsqu'ils ont parlé d'attitude. À un moment donné, il y a bien du monde qui ne savait pas de quoi ils parlaient, là.
Le monde, c'est ça, justement. On n'avait aucune idée que c'était une question d'attitude. Ils ont semblé là, mettre toute la faute du monde sur un ou deux joueurs, ou deux joueurs, finalement. Là, on a identifié Galchenyuk puis Pacioretty. Mais, tu disais, moi, la phrase que je retenais, c'est que Bergevin a dit on avait décelé ça dès le camp d'entraînement qu'il y avait un problème d'attitude.
Aye, aye.
Et je me disais à moi-même, comment est-ce que tu peux avoir décelé ça dès le camp d'entraînement, puis avoir rien fait de l'année, puis t'as encore ta job comme ça? Finalement, quand on regarde avec le recul du temps, probablement que la décision était bonne de le garder là.
Absolument. Écoute, à toi, ta belle famille, ta conjointe que j'adore, et puis c'est ça, je te souhaite de la santé. La santé, mon Bernard, un beau petit voyage à quelque part, du bon temps au soleil, puis tout ça. Puis, sais-tu quoi? Je te donne tes trois premiers potes de trois pieds, puis je te les donne.
Je veux juste te dire une chose, j'en ai besoin.
Bernard, je t'embrasse.
Ben, écoute, joyeuse fête à toi et à tout le monde, Ron. C'est un plaisir, on se reparle l'année prochaine.
Embrasse-toi, là. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.